Vous écoutez RTL.
L'anonymat de don de gamètes, c'est-à-dire les ovocytes et le sperme, sera-t-il bientôt levé? C'est en tout cas ce que souhaitent en partie les fameuses banques de gamètes. Et on va essayer de comprendre tout de suite pourquoi.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Nathalie Rive.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes la présidente du CECOS, c'est la Fédération Nationale des Centres de Conservation des œufs et du Sperme. Vous proposez donc une levée partielle, je dis bien partielle, de l'anonymat des donneurs. Pourquoi Nathalie Rive?
Alors je vais rectifier tout de suite. Nous souhaitons la transmission de données non identifiantes, mais qui ne correspond pas à une levée de l'anonymat partielle, parce que l'anonymat, c'est connaître l'identité du donneur. Nous, ce que nous proposons, c'est une solution, une évolution qui consisterait à pouvoir transmettre aux enfants et jeunes adultes conçus, voire aux parents qui concevraient dans le cadre du don, des informations non identifiantes du donneur. Par exemple, quelles sont ses motivations par rapport à sa démarche de don, ses antécédents médicaux, mais dans la majorité pour tous les donneurs que nous recrutons et que nous acceptons, il n'y a pas d'antécédents médicaux qui sont indispensables pour l'enfant, mais c'est des choses qui nous reviennent régulièrement. Et ensuite, on pourrait discuter sur d'autres points comme la catégorie professionnelle. Tout ça, bien sûr, devra être validé sur le plan juridique, c'est indépendant de nous, de façon à savoir jusqu'où il est possible d'aller sans effectivement rompre l'anonymat. Donc rectifier un petit peu, c'est pas une levée partielle de l'anonymat, puisque l'anonymat c'est vraiment connaître l'identité du donneur.
Donc on ne parle pas de l'identité à proprement parler du donneur en tant que tel, mais bien d'éléments sur sa vie, sa santé, éventuellement sa personnalité, c'est cela?
Alors sur sa personnalité, je ne sais pas si nous irons jusque-là, mais au moins sur ses motivations, sur le don, les éléments médicaux, peut-être est-ce qu'il est nécessaire de transmettre des informations, est-ce qu'il a des enfants ou pas, etc. Et à l'inverse, la question aussi, c'est peut-être aussi que les donneurs ou les donneuses, parce que ça ne concerne pas que le don de spermatozoïdes, ça concernerait le don de gamètes, ovules, spermatozoïdes et embryons, le donneur peut aussi être à même de vouloir avoir des informations, par exemple, sur le don de spermatozoïdes. Est-ce qu'il a eu plusieurs enfants, est-ce qu'il y a eu plusieurs enfants, conçus à partir de son don, et lui donner éventuellement 0, 1, 3 ou 4, des informations qui ne changent en rien en ce qui concerne l'anonymat. C'est-à-dire, on essaie d'avoir une position intermédiaire entre le maintien complet de l'anonymat et ceux qui souhaitent un lever complet de l'anonymat, quelque chose qui humaniserait plus le donneur. Et c'est quand même des demandes qui sont aussi récurrentes, même vis-à-vis de jeunes adultes conçus par don, qui ne sont pas du tout favorables à la levée de l'anonymat.
Et est-ce que vous iriez jusqu'à l'origine démographique ?
L'origine géographique, de toute façon, il est certain qu'un donneur qui donne dans une région déterminée, dans la majorité des cas, il est originaire de cette région. Donc un couple qui est pris en charge, par exemple, à Lille, le donneur est originaire de la région Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a très peu de donneurs qui, habitant dans une région, viennent donner dans un CECOS d'une autre région.
À ce stade, pourquoi ne pas aller plus loin? Ça peut être frustrant aussi de ne pas tout savoir, et pour ceux qui donnent et pour ceux qui reçoivent, si je puis dire.
Alors, je dirais que il y a un plébiscite vraiment majoritaire et quasi absolu des couples qui font des démarches de don de gamètes ou d'embryons, oui. Des donneurs également actuels, vers le fait de maintenir cet anonymat. En revanche, il y a quand même ces demandes un petit peu de potentiellement à la réflexion de transmission de données non identifiantes. Et je pense que les questionnements, les réflexions au sein de la fédération mettent en avant que les questionnements de jeunes adultes conçus par don, ne vont pas forcément uniquement et majoritairement sur la notion de connaître l'identité du donneur. Par exemple, il y a l'association PMA qui veut la levée de l'anonymat des donneurs lorsque et la transmission potentielle de ces informations à la majorité des enfants conçus par don. L'association ADED, elle, est plutôt dans un milieu qui correspond au nôtre et on ne s'est pas du tout concerté sur le sujet pour élaborer ces propositions de quelques informations qui pourraient être transmises à l'adulte conçu par don sur le donneur ou la donneuse, etc., mais qui ne sont pas du tout des informations nominatives.
Une toute dernière précision, s'il vous plaît, je vous demande une réponse courte, excusez-moi de vous bousculer, est-ce que le donneur sera obligé de communiquer ces informations ?
Alors, est-ce qu'il sera obligé? Je pense, ben, c'est la discussion, elle est là. C'est-à-dire que il faut envisager peut-être dans un premier temps qu'il puisse y avoir des données qui puissent être transmises assez systématiques, comme les motivations du don, et ensuite réfléchir sur les autres types de données et que effectivement certains donneurs n'acceptent peut-être pas de donner toutes ces informations. Mais là encore, c'est des éléments qui méritent d'être réfléchis et puis d'interroger justement les donneurs et les donneuses qui sont actuellement en cours de démarche sur quel type d'informations ils accepteraient que l'on donne.
Merci beaucoup Nathalie Rive. Je rappelle que vous êtes la présidente du CECOS, la Fédération nationale des centres de conservation des œufs et du sperme.
Merci.